C'est une semaine très africaine qui a d'abord monopolisé l'attention, une actualité rythmée par l'opération Sangaris de l'armée française en Centrafrique. Opération très délicate dans les rues de la capitale, Bangui, livrée au règlement de compte entre communautés. Stéphanie, une habitante de Bangui, nous racontait la destruction d'une mosquée dans son quartier.
Ils sont entrés dans la mosquée, il y avait un véhicule appartenant à un musulman, mais la mosquée était vide. Du coup, ils ont fait sortir le véhicule au bord de la route, ils ont mis le feu et puis ils ont cassé la mosquée. Ils ont commencé d'abord par enlever toutes les tôles et tout ça et les emporter. Ils ont cassé les portes, cassé les murs de la mosquée. Il y a une partie du mur qui est cassée, la mosquée est totalement à terre. Je comprends, je ne vais pas dire que c'est normal, mais je comprends pourquoi les gens ils sont si remontés. Et je pense que ça va s'empirer.
La mission de l'armée française, désarmer les milices qui sèment la terreur. Une tâche difficile dans un pays immense et déstructuré et où les embuscades sont nombreuses. Deux soldats l'ont payé de leur vie. La spirale de la violence est brutalement aggravée cette semaine, a admis le ministre français de la Défense. Le sentiment de peur est toujours très présent dans la population. Les habitants s'enferment chez eux ou se réfugient dans les églises. Dans une paroisse à Bangui, 12 000 personnes cohabitent dans un camp de fortune entassé en plein air. Nous entendions à ce propos le coordinateur des formations sanitaires privées catholiques en Centrafrique.
Les gens ont peur du fait que tout peut basculer parce que le calme est un calme précaire qui règne. Il y a des gens qui quittent le camp le matin, ils rentrent chez eux et le soir, ils reviennent. Ce qui fait que le soir, c'est très, très, très bondé. Même au niveau du site, les gens ont peur parce qu'ils craignent que ces bandits de grand chemin puissent venir les agresser la nuit.
Tout au sud du continent, le monde est venu rendre mardi un dernier hommage à Nelson Mandela. Dans le stade de Soweto, une centaine de chefs d'État avaient fait le déplacement pour saluer la mémoire de Madiba. Si des sifflets ont été réservés à l'actuel président Jacob Zuma, un discours aura retenu l'attention, celui ovationné de Barack Obama. Discours qui a marqué Michael Debb, secrétaire général de Justice et Paix en Afrique du Sud.
Il a parlé de la façon à être un bon leader. Il a parlé de l'intégrité de Mandela et c'est un défi à tous les leaders du monde, en fait, pour faire ce que Mandela a fait dans le rôle comme le chef d'État.
Il y avait des gens qui ont dit, les gens de presse, que c'est un de ses plus importants discours. Et il me semble qu'il a très bien fait. Tout le monde était bien touché par ce qu'il a dit et comment il l'a dit.
L'actualité cette semaine, c'était aussi en Ukraine où les manifestations contre le pouvoir n'ont pas cessé. Les chancelleries occidentales ont ouvertement appuyé les contestataires. Si la Russie semble acquise au rapprochement avec l'Europe, la province semble, elle, regarder vers la Russie. Une image trop simpliste que temporisait Alexandra Goujon, spécialiste de l'Ukraine à l'Université de Bourgogne.
Ce n'est pas une question d'être pro-russe ou pro, si je puis dire, ukrainien. On a même parlé là de reconstitution de l'Union soviétique. Mais je crois que c'est un petit peu plus complexe, même si on peut penser qu'effectivement la classe moyenne de Kiev n'a pas les mêmes aspirations et les mêmes préoccupations que les mineurs du sud-est ukrainien qui constituent notamment une partie de l'électorat Yanukovych et qui sans doute doivent être nettement plus inquiets de la politique libérale et concurrentielle de l'Union européenne que de relations économiques avec la Russie qui finalement ne demande pas à l'Ukraine de profondes réformes structurelles.
D'autres manifestations se sont poursuivies dans la semaine, en Asie du Sud-Est cette fois, et en Thaïlande en particulier. Les chemises jaunes souhaitent toujours le départ de celle qui dirige le gouvernement, Yingluck Shinawatra, accusée de vouloir favoriser le retour de son frère Thaksin. Mais c'est la calme Singapour cette semaine qui est violemment sortie de sa torpeur avec des émeutes xénophobes. Les travailleurs étrangers sont la cible d'une mondialisation toujours plus violente, un phénomène sur lequel est revenu Alain Frécon, spécialiste de Singapour à l'Asia Center.
Le slogan national de la propagande locale, c'est l'harmonie raciale. Mais en tout cas, il y a une xénophobie ambiante qui s'explique notamment par la crise économique. L'impression de la part des Singapouriens qu'ils se sentent de moins en moins chez eux, qu'il y a besoin de plus en plus de main-d'œuvre étrangère. Alors, le parti au pouvoir s'explique et il le dit. Si on n'a pas de travailleurs immigrés, on n'aura personne pour construire nos bâtiments, nettoyer nos rues, etc., etc. Mais ça, les Singapouriens ne le comprennent pas. Vous savez, ils ont grandi dans une cité qui a été toujours très sûre, très prospère, très propre. Ils étaient un peu choyés. Avoir ces émeutes qui arrivent aujourd'hui, c'est rajouter de l'huile sur le feu parce que ça apporte de l'eau au mouvement, au discours xénophobe.
Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous. C'est le slogan lancé mardi par le réseau Caritas Internationalis. Pour la première fois, une campagne mondiale portée par toutes les Caritas a été lancée afin de sensibiliser chacun au problème de la faim. Le mot d'ordre, il y a assez de nourriture pour nourrir la planète. Dans une vidéo, le pape a apporté son soutien à l'initiative qui, derrière les bons mots, a une réalité bien concrète, comme le rappelait Martina Lipsch de la Caritas Internationalis.
En Asie, les Caritas, tous ensemble, ils font annuellement une conférence avec les paysans pour discuter les méthodes plus agroécologiques pour cultiver de la nourriture, pour conserver l'environnement. Si je vais au Sénégal, il y a des projets qui travaillent beaucoup avec des femmes. On essaye de leur donner, par exemple, des microcrédits pour qu'elles puissent faire un petit magasin pour vendre leurs produits d'agriculture, mais aussi des autres produits qu'ils ont.
Et terminons cette rétrospective par l'homme de la semaine, que dis-je, l'homme de l'année. Le pape François a été élu Person of the Year par la très prestigieuse revue américaine Time, une distinction honorifique qui vient saluer son aura et dont s'est félicité le porte-parole du Saint-Siège, le père Lombardi.
Si cette déclaration signifie que beaucoup, un grand nombre de personnes entendent le message de l'amour de Dieu pour tous comme un message très important pour l'humanité, alors ça c'est un bon signe et le pape peut en réjouir de ça.